hate to say. Sud Radio, il est 14h.
Parlons vrai.
Tout de suite, le Flash Info.
Bonjour à tous. Son décès il y a presque un an avait provoqué plusieurs jours d'émeutes en France. Une reconstitution autour de la mort de Naël est organisée aujourd'hui à Nanterre, en présence des deux policiers mis en cause, des passagers de la voiture conduite par Naël et de témoins. L'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de la police lors d'une interpellation. Cette reconstitution doit notamment permettre de déterminer si l'usage de l'arme à feu était légitime. Agnès Buzyn assure avoir subi du harcèlement au début des années 2000. L'ancienne ministre de la Santé se confie dans un documentaire diffusé aujourd'hui sur M6. Elle raconte le harcèlement qu'elle a subi lorsqu'elle était médecin de la part de ses confrères de l'hôpital Necker. Les témoignages de violences sexistes et sexuelles se multiplient dans le milieu hospitalier ces dernières semaines. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les blocages à Sciences Po et dans les universités des manifestants pro-palestiniens, à des actions qui empêchent le débat, selon le président. Dans un entretien à La Provence et La Tribune, le chef de l'État se dit favorable à l'évacuation des université bloquée par les forces de l'ordre à la demande des établissements. Toujours pas d'accord sur une trêve à Gaza, un responsable du Hamas a affirmé hier que son mouvement n'accepterait en aucun cas un accord qui ne prévoirait pas explicitement un arrêt de la guerre. Le premier ministre israélien réagit et déclare qu'Israël ne peut accepter les demandes du Hamas d'arrêter la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahou a maintenu ces derniers jours sa volonté de mener un assaut à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, dernier bastion du Hamas. La fin de l'une des émissions les plus anciennes de la télé, diffusée depuis 50 ans, des chiffres et des lettres, sera déprogrammée à la rentrée. Le programme semble victime du plan d'économie de 200 millions d'euros voulu par France Télévisions d'ici 2028. Et puis le foot, pas de match aujourd'hui. En hommage aux 18 personnes décédées lors du drame de Furiani, c'était il y a 32 ans, une tribune du stade s'était effondrée lors d'un match de Coupe de France. Très bon après-midi à tous.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Bonjour Gérard.
Bonjour madame.
Alors, plein de très bons livres encore cette semaine.
Oui,
je rappelle que vous êtes libraire, La Griffe Noire. Je rappelle qu'il faut continuer à aller chez vos libraires, acheter chez vos libraires.
Oui.
Alors.
Oui, le livre que vous avez dans les mains,
Vous voulez qu'on le fasse, L'Art du Cocktail,
ouais,
par le barman légendaire du Ritz,
ouais,
Franck Meyer, présenté par Philippe Collin. Philippe Collin, il a une plume irrésistible. Je vous ai parlé de son dernier polar, qui est un polar comme on aime, c'est-à-dire un peu burlesque. Et là, c'est ce barman qui est devenu une légende. Il a été au bar du Ritz entre 1921 et 1947. C'est la première fois qu'il est publié en français, donc c'est ce qu'on appelle la mixologie aujourd'hui, donc c'est tous les cocktails possibles et imaginables. Vous demandez un SS Manhattan, au shaker un trait de bénédictine, une moitié de jus d'orange et l'autre moitié de bourbon bien agité et servir. Et surtout, il vous raconte dans la préface qui était cet homme qui a quand même...
Il y a un roman qui est paru sur lui, dont on vous parlera la semaine prochaine.
Alors, Gérard.
Alors, j'hésite à vous parler de ce roman que j'ai adoré, mais qui est tué dans l'œuf à cause du distributeur. Je dis pas de l'éditeur, du distributeur. C'est-à-dire que pour avoir ces livres, il faut au moins 2 semaines à 3 semaines, ce qui est quand même, voilà. Alors, je vais vous en parler. Je suis tombé sous le charme de ce bouquin. N'enguirlandez pas votre libraire en disant vous êtes nul, il vous faut 3 semaines. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous les aurez pas. C'est soi-disant une question d'ordinateur. Mais je trouve ça vraiment.
C'est un cri d'alarme que vous lancez.
Voilà, absolument. Il serait peut-être temps de faire.
Parlez bien dans le micro.
Oui, je vais parler dans le micro.
Alors, quel est ce livre?
Alors, on est dans le nord de la France, hein, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. On est dans une école, il y a une bande, il y a Pierre qui parle, alors il y a une bande qui va se former, il y a Bouboule, ça va être la bande à Bouboule, parce qu'il est un peu gros, sa mère est marchande de bonbons, il y a une jeune fille, il y a une jeune fille avec son frère Auguste, et puis là arrive un jeune émigré polonais, c'est-à-dire que là, il y a le parallèle entre l'émigration d'aujourd'hui,
mais
qui n'a absolument rien à voir, à part le racisme, la peur des gens face à ce gosse. Ce gosse, il a fui la Pologne, je crois, d'où il vient. Et puis il y a un maître là-dedans qui est le maître républicain, parce que les gosses commencent à se moquer du gamin parce qu'il parle mal. Et là, il remet les choses bien à voilà. Et puis alors les coups de règle sur les mains, je vais vous dire après, ils ne disent plus de mal du gamin. Ils vont devenir très amis, toute cette bande. Ça va faire une bande vraiment...
très soudé.
Oui, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. C'est comme on dit, c'est un tourne-page. Hein. C'est moi, je suis vraiment tombé sous le charme de ce bouquin.
Redites le titre.
Ça s'appelle Le Courage des lâches aux éditions de la Trace. Et alors vont arriver les Allemands. Et là, ils vont fuir. Alors le Polonais, il adore la mécanique et donc il a rafistolé une vieille camionnette. Ils vont traverser toute la France. Ils vont arriver dans les Alpes, dans le Vercors. Et là, il va y avoir la résistance. Et alors, ça paraît comme ça très sympa, très neuneux, très, très saga, agréable. Mais là, vous êtes en plein dans le dur, vous allez voir ce que c'est que la résistance. Mais c'est aussi l'amitié, la solidarité, la solidarité des gens du Nord, quand on dit à cette époque, c'est vraiment... et là, les parents, quand le gamin commençait à être raciste, il s'en prenait plein la tête aussi. C'est chaleureux, les personnages, ils sont... Vous attendrez... Vous êtes, voilà. Et puis, bon, il y a des moments, c'est entre le rire et le pleurs. Il y a des moments, je lui en veux parce qu'il se passe des trucs. C'est pas possible, mais dans la vraie vie, c'est aussi ça. C'est un magnifique... J'avais adoré n'importe comment. U3, c'est un super bon. Il avait fait Les Yeux d'Ava, je crois.
C'était
vraiment un chef-d'œuvre. Et là, vous retrouvez... Et je trouve... Alors, allez-y, il faut lui donner sa chance à ce roman parce que vous ne l'aurez pas tout de suite, certainement. Allez chez votre libraire, soyez patient. Mais n'importe comment, on vous en reparlera. Et si la situation s'améliore, on vous en tiendra...
Mais c'est que les gens comprennent, le distributeur, pourquoi il distribue pas
parce qu'ils ont soi-disant un problème informatique, ils ont changé d'informatique. Enfin, moi, je trouve qu'au 21e siècle, avoir un problème d'informatique qui dure depuis je sais pas combien de temps, c'est quand même... et puis pour les auteurs, c'est dramatique, le livre est mort.
Je vous ai envoyé un coup de gueule aussi d'un petit libraire qui n'arrive pas à voir la dernière BD Manu Larsenet, à qui on a répondu, vous êtes trop petit.
Vous êtes
On a trop de demandes et on préfère aller dans les hypermarchés.
C'est abominable.
Donc
quand même.
Et alors en plus, qui est responsable, le distributeur ou l'éditeur?
C'est l'éditeur, là, à mon avis. Et en plus, ce qui est scandaleux, c'est que le client, le lecteur, il rend responsable le libraire et pas l'éditeur ni le distributeur. Donc n'en veuillez pas à ce libraire et c'est vraiment la faute de l'éditeur. Voilà, ça c'est un. Mais ça c'est pire en pire, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Voilà. Donc, je le répète, vous attendez, vous êtes patient, vous y allez, peut-être que les libraires en auront. Ça s'appelle Le Courage des lâches aux éditions La Trace de Wendal Utroy. Et c'est vraiment une merveille. Vous allez passer un moment, mais c'est comme un téléfilm, comme un film. Vous savez, comme nous, moi, c'est ma génération, mais quand on était devant la télé, qu'on voyait ces grandes. Voilà,
c'est
vous
comme
êtes dedans.
Saga.
Puis il écrit très, très, très bien.
J'ai pensé à vous, Gérard. J'ai reçu ce livre absolument formidable, 30 City Trip en train, en Europe, au Routard. Je sais que vous adorez le train. C'est chez Hachette. Donc c'est dans la collection des guides du Routard qui se diversifie et c'est vrai qu'aujourd'hui le train c'est devenu pour beaucoup une alternative à l'avion, c'est une autre manière de voyager,
de regarder les paysages et tout. Et donc
c'est le livre, c'est un guide extrêmement bien fait qui vous propose des circuits en train avec détaillé comme c'est le Routard, les bonnes adresses, les balades. Il y a plein de choses. Je sais que Gilles Gansman a sauté au plafond parce que lui aussi voyage beaucoup en train. Super bien fait, City Trip en train.
Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le lire en regardant une vidéo aussi, parce que les gens ne savent pas beaucoup. Vous tapez sur YouTube, par exemple, vous faites Paris-Marseille en train et vous êtes dans la cabine du conducteur, et moi je me fais 3h15 de...
Génial.
C'est génial, pour décompresser, vous êtes le conducteur du train, c'est absolument... Alors vous avez tout, vous faites Paris-Londres, vous faites Paris-Le Mans, j'adore, les gens ne savent pas du tout, c'est gratuit, vous allez sur le site et vous avez plein de choses, mais ça c'est absolument fabuleux.
30 City Trip en train en Europe, le train a priori c'est quand même moins cher que l'avion, ça dépend, c'est pas sûr.
Le Paris-Lyon, aller-retour à 180 euros, merci, oui.
Mais en Europe, vous avez des trains vraiment pas chers.
Et puis il y a des tickets, il y a des passeports
spéciaux. C'est aux éditions Hachette, donc j'ai pensé à vous quand j'ai reçu ce livre.
Juste pour vous dire qu'on vient de paraître en livre de poche, un livre qu'on avait adoré d'Adèle Bruel.
Ah, je l'ai pris aussi.
L'heure des femmes, vous avez pris?
Oui,
sur Minigrégoire.
Je l'ai noté, absolument.
Ah ouais, c'est génial.
Il vient de paraître en poche, précipitez-vous si vous ne l'avez pas lu. Adèle Bruel, c'est la petite fille de Minigrégoire. Et ce livre raconte, c'est sous forme de roman, ouais. Mais c'est quand même l'importance qu'a eu cette femme, le lien capital qu'elle a réussi à créer, la première fois que les femmes parlaient. C'est un livre formidable.
C'était
vraiment,
une journaliste, parce qu'il y a plein de générations qui ne connaissent pas Milly Gréois. C'était une journaliste qui était sur RTL,
c'est vrai,
je crois.
Raison de le rappeler.
Et qui parlait tous les après-midi. Moi, je me rappelle que ma mère arrêtait tout pour écouter Milly Gréois. Et là, c'est la première fois que les femmes, mais au quotidien, c'est-à-dire que ça a été, ce que je disais l'autre fois, aussi important que MeToo.
Absolument.
Et c'était vraiment une révolution. On découvrait
Parce que les femmes parlaient de leur intimité,
la sexualité,
toute liberté,
des hommes, de la dépression. C'est vraiment une femme incroyable. Et je trouve que on devrait lui faire une statue à cette femme, parce que elle est complètement passée aux oubliettes, parce que forcément les intellos ont considéré que c'était vraiment du
c'était
populaire.
Même devenu un peu c'est Milly Gréois, c'est un peu des trucs de concierge.
Genre, voilà.
Or pas du tout, ça
pas
a eu
tout, ça
a une importance considérable.
C'était une femme capitale et importante pour la vie des femmes. Voilà, ça vient de paraître, c'est en livre de poche, ça s'appelle L'heure des femmes.
Oui, alors qu'est-ce qu'on lit
on en avait parlé l'autre jour, mais j'en avais mal parlé. Je trouve que c'est de Anne-Christin Antel, ça s'appelle Jenny, c'est trois femmes de la Baltique chez la Belle Étoile.
Oui.
Et ça, j'ai vraiment allez-y, parce que c'est une très belle saga, ça sera en trois volumes. Jenny, c'est l'histoire d'une fille qui est fille de pasteur, on est en Finlande, moi je connaissais rien du tout à la Finlande, et alors vous avez le milieu des femmes à cette époque très bourgeois, vous savez, autour d'une tasse de thé, ils se recevaient pour aider les pauvres, alors ils faisaient des manifestations et tout, et elle dans sa ville, il y a des industries qui se montent, et la condition des ouvriers en Finlande est absolument mais atroce. J'ai appris des choses, par exemple, que quand les orphelins, quand des fils ouvriers étaient orphelins, on vendait les orphelins aux enchères, aux bourgeois, pour que il y a des gosses qui dormaient dans les étables. Enfin, c'était. Mais donc cette fille, elle va se battre contre ça, et elle va être approchée par un jeune étudiant très qui veut aider les ouvriers, et puis il y a un autre homme, un industriel, et cet industriel, alors lui, elle le déteste parce qu'elle pense qu'il est absolument horrible avec ses ouvriers, et là va commencer, vous savez, c'est je vais être très bien avec l'autre qui est pour les prolos, pour les terres, mais l'autre il m'attire, il y a quelque chose, et là pendant toute cette saga, c'est comment, et la fin, bon, alors c'est un petit côté, il y en a qui vont me reprocher ça en disant que c'est un peu pas eau de rose, mais c'est bon, c'est facile, mais j'ai adoré ce bouquin, et en plus ça vous nous fait découvrir l'histoire de cette Finlande. Moi j'étais captivé, une fois que j'ai commencé, j'attends le deuxième tome.
Dans le froid, c'est pas trop votre truc non plus.
Non, mais là c'est pas, oui, mais il y a la nature, il y a.
Redites-nous le titre.
J'ai adoré, franchement, ça s'appelle Jenny, les trois femmes de la Baltique à la Belle Étoile, et c'est Anne-Christin Antel. Allez, la couverture en plus, moi j'ai adoré, c'est rose, machin, j'ai adoré. Voilà,
à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Sud Radio Montpellier.
104.7.
Sud Radio.
À tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui... Il n'arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
Alors,
au début de cette émission, vous avez pensé à moi pour le train. Ben, moi, j'ai pensé à vous pour la cuisine, parce que je sais que vous êtes gourmande, gastronome. Et vous savez, on avait parlé d'un bouquin qui s'appelait Le Tour du Monde en 80 jours. Oui. Alors, les auteurs s'appellent William Navarrete et Pierre Bignani, sur les éditions Emmanuel Collard. En fait, il avait repris le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Ils avaient été dans le monde entier. Et là, vous redécouvriez les recettes, mais aussi les gens qui les faisaient, le côté humain de la gastronomie. C'était un truc, ça avait marché. Les gens avaient adoré. Alors, si vous l'avez pas lu, lisez-le, parce que c'est vraiment une référence. L'auteur est cubain, il est d'origine cubaine. Et on sent, il est
génial.
Voilà, et ça, même son style, ça chante, c'est savoureux, c'est gourmand. Enfin, voilà, c'est pour vous. Et puis, il vient de paraître, je suis très, très content, j'ai adoré aussi. C'est toujours des mêmes, de Louliane Navarrete, aux éditions Emmanuel Colas, le Tour du Monde en 80 saveurs, le Tour de France en 80 saveurs. Alors lui, c'est un peu, vous savez, comme il y avait une vieille édition chez Bollin qui c'était le Tour de France par deux enfants, qui était un truc ancestral, fin 19e, qui était, et lui, il a refait le Tour de France à travers la gourmandise, mais à travers les gens qui l'ont fait, à travers les immigrés aussi. Comment se sont télescopées les recettes du terroir et les recettes venues d'ailleurs. C'est génial. Ça commence à Nice. Alors lui, il est en cuisine, hein. Il est vraiment, c'est pas le gars qui vient à sa table, qui s'assoit là.
Non, il va vraiment à la recherche.
Il a les mains dans le cambouis. On sent qu'il adore ça.
Il a des photos. C'est un beau livre.
C'est un livre. C'est comme un roman. C'est pas très cher. Et une fois que vous êtes dedans, ça vous donne envie d'aller voir des endroits en plus, parce que moi je suis pas très gourmand à part mon micro-ondes, mais là ça m'a donné envie d'emporter mon micro-ondes vers Nice dans le.
Qu'est-ce que vous avez envie d'aller découvrir? Vous avez retenu des choses?
Particulièrement les recettes de Nice. Allez-y, quand il parle de Nice, on sent qu'il est
sur son petit nuage.
Ça s'appelle le Tour de France en
80 saveurs.
Voilà, et c'est aux éditions Emmanuel Colas de William Navarrete.
Voilà. Alors, ultra drôle, drôlissime, bonne retraite Bernadette. Vous savez qu'il y a une vogue des cahiers de jeux.
Ah oui.
Ça cartonne, je pense vous en vendez beaucoup. Alors au départ, c'était les cahiers pour les enfants, les cahiers de vacances. Et là, c'est mon ami Joël Goron avec Delphine Appiou et Aurélie Baudry-Palmer qui ont décidé de faire un cahier de jeux pour les retraités. C'est vraiment hilarant. Alors c'est retrouver, il y a des griffes, c'est vraiment un cahier de jeux hein, pour participer. Si vous nous regardez, donc il y a les mots à trouver. Donc les mots à trouver, c'est lombalgie, kiné, tendinite, marche nordique, ricorée, lait digérable, amplifon. Donc il y a énormément d'humour, ça aide peut-être à si vous avez des départs à la retraite ou si vous
même ça c'est joli parce que les gens cherchent souvent des cadeaux à offrir.
Absolument, on ne peut plus rien dire, mais vous avez le droit de le penser tout bas. Donc plus personne ne veut travailler aujourd'hui. Si j'avais bossé comme ça, moi on m'aurait viré. Le niveau scolaire a baissé, ils ne savent pas lire en sixième. Il y a des jeux de loi, il y a des mots croisés, il y a un truc très drôle. Vous savez le jeu des sept erreurs, pas des sept erreurs. Vous avez le retraité dans son salon et donc c'est deux fois la même image du papier assis sur son canapé. Il y a comment occuper les enfants. Êtes-vous une retraitée boulet? Pour vous, retraite rime avec fin de vie, continuité ou nouvelle vie. Votre dernier dîner entre amis date de plus de 6 mois. C'est fait à 4 et a été prévu 2 mois à l'avance. Une tablette 10 copains. C'est très très drôle.
Mais ça, bonne idée parce qu'on a vraiment pas d'idée pour. Non mais c'est vrai, en librairie. Les gens nous demandent mais qu'est-ce que je pourrais offrir de drôle très compliqué. Là franchement c'est génial.
Et connaissez-vous Emmanuel Macron et sa réforme? Alors vrai ou faux, il a dit la retraite est une invention de feignasse. Vrai ou faux, pour avoir ses trimestres complets il devra travailler jusqu'à 92 ans, etc., etc. C'est vraiment un éclat de rire à chaque fois. Il y a un peu de sexe aussi. Vraiment très très drôle à offrir à vos amis retraités, libérés, délivrés, retraités, c'est en sous-titre, et c'est donc ce cahier de vacances qui est cahier de retraite
chez
De Noël, et c'est bientôt les vacances à offrir à tous les retraités ou futurs retraités.
Alors vient de paraître, alors c'est une série qu'on adore, hein, moi j'adorais, mais je suis très méfiant parce que quand il y en a deux bons, le troisième, je me dis il va se répéter et tout. C'est le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, et là c'est le tome 3, ça s'appelle Les Nuits de la Peur Bleue. J'ai adoré. Alors, c'est toujours aussi bien. Vous savez, quand il y avait Jean-François Parot, on n'était jamais déçus. Alors lui, c'est pour la télé. Hein, c'est franchement, là, vous avez. Et là, vous êtes dans les années 1852. Vous êtes à Paris. Il y a une épidémie de choléra, ce qu'on appelait la peur bleue. Et là, c'est la panique à Paris. Mais en même temps, dans un quartier complètement sinistre, il y a des assassinats. on poignarde les gens, on le retire soit un rein, soit un foie, enfin voilà, et va commencer l'enquête. Et en plus, alors vous allez y retrouver, alors je sais jamais son nom, c'est l'inspecteur Valentin Verne. Alors lui, il est féru de nouveautés, hein, de tout ce qui est nouveau. C'est un peu la naissance de la médecine légale. Il y a Aglaé, alors Aglaé et voilà, enfin bon, je vais pas vous. Hein. Alors il y a de nouveau, hein, il y a l'entourloupe. Alors l'entourloupe, c'est un escroc qui, bon, il s'est un peu mis de côté, il est repenti, il va les aider. Et puis il y a Tafik. Alors Tafik, c'est le mamelouk, un ancien mamelouk de l'armée napoléonienne. Et là, va commencer une enquête, mais là-dessus vient se greffer Vidocq. Vidocq, il est à la recherche de trois savants spécialistes du choléra qui ont disparu. Et ça va à 100 à l'heure. Il a l'art de reconstituer le Paris du 19e. J'ai l'impression, tu sais, vous savez, quand on met des lunettes vidéo, on est dedans. Et ben, dans ce bouquin, j'ai l'impression d'avoir des lunettes vidéo qui me baladent dans tout Paris du 19e. Les personnages sont de super bien psychologiquement faits, parce que souvent dans les polars, c'est le suspense qui compte. Et les personnages sont pas. Là, ils sont super bien campés. Allez-y, vous serez pas déçus. C'est vraiment, moi, j'ai retrouvé tout le plaisir des deux premiers. Ça s'appelle Les Nuits de la peur bleue d'Éric Foissier chez Albin Michel. Et c'est dans la série Le Bureau des Affaires Occultes. Franchement, ouais, c'est une pure merveille.
Puis vous pouvez lire les précédents.
Ah ben allez-y, c'est en poche.
Ça coûte pas cher.
Je vous conseillerais de. Vous prenez les trois, vu le. Bon, ouais. Il va vite. Vous avez vu le temps qu'il fait, il pleut, machin, c'est un enfer. L'inflation repart, il y a le chômage, en fait, tout. Donc, vous prenez les trois, les deux en poche, et vous allez suivre les aventures de Valentin Verne, et c'est absolument fabuleux.
Et là, effectivement, c'est des livres qui sont.
Pour ainsi dire, du roman. Enfin, c'est de l'histoire, parce qu'il reconstitue tellement bien l'époque. Vous avez trouvé, vous avez croisé Georges Sand. Voilà, franchement, c'est bien foutu.
C'est bien foutu. Alors, un petit livre qui a beaucoup plu à mon petit-fils, je vous le dis, Gadou, le doudou dessiné de Monsieur Tran. Ça ressemble un petit peu à des mangas. Et c'est les premières bandes dessinées pour enfants. Il y a trois ou quatre cases. Et ça raconte une histoire, le trésor. Donc voilà, j'ai trouvé une carte au trésor. C'est des petites cases et c'est hyper ludique. C'est super joli. C'est un petit ours. Je sais que ça ressemblait au manga évidemment parce que c'est japonais. C'est un petit panda et chaque jour il peint des tâches et il se réinvente. Et c'est pour apprendre aux enfants à faire des bandes dessinées. C'est chez Mr. Tran & Co. Gadou, le doudou dessiné de Mr. Tran.
Alors, moi, je vais vous donner du pas cher et du très, 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 très bon par un de mes écrivains anglo-saxons préférés. C'est en folio, hein, il s'appelle Sébastien Barry et ça s'appelle Des jours sans fin. Et pour moi, c'est un des plus beaux romans anglo-saxons. C'est un vieux truc, hein. Enfin, c'est pas récent, hein. Si vous le demandez à votre libraire, ce qu'il l'est pas, ça serait pas étonnant, mais commandez-le. Nous, ça marche, mais les gens ont adoré. Alors, on est dans, vous savez, c'est la grande famine en Irlande dans les années 1880. Il y a Thomas c'est un jeune Irlandais, il a faim, hein, il quitte l'Irlande et il va se retrouver aux États-Unis. Là, il va rencontrer un garçon de son âge, John. Et John, ils vont être en couple. Vous savez, il y avait eu ce film des cowboys. Et là va commencer. Alors, c'est contraire de ce film-là parce que ouais, mais là c'était pas assumé, c'était triste. Or là, il s'est complètement assumé et tout. Et là va commencer une aventure absolument incroyable. Hein, je suis rentré dedans. Par exemple, il y a les combats contre les Indiens. Il y a la guerre de sécession. Ils vont s'engager pendant la guerre de sécession. Dans les bars, ils vont faire travesti, c'est-à-dire qu'ils vont se déguiser en femmes parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc, ils vont gagner leur vie comme ça. Avec la guerre avec les Indiens, ils vont adopter une petite fille, une Sioux, qui va devenir leur fille. Il y a un grand-père poète. C'est fabuleux. C'est plein de générosité, d'amitié. En plus, c'est une histoire des USA qu'on ne connaît pas trop, mais enfin, qu'on connaît, mais là il le montre d'une autre façon, et puis c'est au quotidien par des gens, alors si j'ose dire ordinaires, et c'est moderne parce que à cette époque-là, avoir une famille recomposée avec deux hommes, une famille Sioux, une gosse Sioux plus un grand-père poète, c'est pas glauque du tout, c'est très, vous allez, et puis alors surtout faut tout lire Sébastien Barry, vous verrez, c'est absolument incroyable, c'est en folio, allez-y, moi je suis un fanat, mais c'est un foufou, je trouve que ce type il devrait être au panthéon des écrivains anglo-saxons.
petit livre absolument, donc redites son nom.
Alors ça s'appelle Des jours sans fin, c'est en folio, c'est de Sébastien Barry. N'enguirlantez pas votre libraire s'il l'a pas, c'est un vieux truc, c'est de ma faute, mais il est disponible, donc il pourra vous l'avoir.
Il pourra vous le commander.
Voilà.
Petit bonbon aussi de bonheur, petit éloge des cafés aux éditions Les Pérégrines, c'est Léa Wiazemski.
Ah, j'adore.
C'est, moi j'adore aussi ce qu'elle écrit.
Oui,
absolument. Et donc c'est la fille de Régine Desforges et de Viaz, le dessinateur. Et en fait, petit éloge des cafés, c'est une super bonne idée. Je trouve que personne n'y avait pensé. On a tous des souvenirs de cafés, que ce soit des cafés en vacances, des cafés parisiens ou des cafés bordelais où vous habitiez. Et donc elle vous raconte, c'est une sorte de petit dictionnaire amoureux des cafés, et elle vous explique un certain nombre de choses sur l'origine de certains cafés, les deux magots, des choses un peu célèbres, et puis des cafés beaucoup moins connus, le petit café du coin de la rue avec lequel on a des souvenirs. J'ai trouvé que c'était des très très beaux texte, c'est à la fois nostalgique, c'est poétique, c'est intéressant, c'est super bien écrit. Elle raconte qu'elle a été trimballée par ses parents dans les cafés, qu'elle a travaillé après quand elle était étudiante dans des cafés.
Café.
C'est vrai qu'on a parfois un rapport très, très particulier,
puis,
c'est un très joli livre.
Café, c'est un bon... Moi, je vois quand on va dans des îles ou dans... C'est un bon endroit pour découvrir les gens, et puis au café, on se parle.
Absolument.
C'est pas comme sur Internet, quoi. Je veux dire, on a la personne en face, et puis c'est drôle, au café, on a l'impression qu'on est... on se dit des choses qu'on se dirait pas ailleurs, quoi. C'est une sorte de confessionnel au soleil ou à ciel ouvert. Enfin, moi, j'adore le café, hein, donc.
Et puis il y a les cafés des autres aussi dont elle parle. Vraiment, allez-y, c'est un petit livre, petit éloge des cafés aux éditions les Pérégrines. C'est Léa Wiazemski.
Et juste pour finir, comme
pour
vous, ça s'appelle Les Jeux Olympiques de David au coq, c'est chez Minuit Jeunesse, c'est des pop-up, alors c'est génial, vous regardez
les pop-up
sur...
c'est ces livres qu'on ouvre et qui
et regardez.
Waouh, les tennis, c'est un peu rétro dans le dans le dessin, donc
ouais, mais c'est sympa,
c'est pour expliquer les différents sports aux enfants
et les gamins qui savent pas souvent choisir le sport qu'ils veulent faire. Ça peut être une bonne idée pour
c'est
leur
beau,
donner
le graphisme
un panorama,
est très beau, hein.
Ah, il est joli, hein.
Très
franchement
beau.
C'est c'est chez Minuit Jeunesse.
Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres. Très bonne journée.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Respire. Tu ressens cette liberté? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Et regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunidad Valenciana. Méditerranée en live.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup. Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Sud Radio.
Sud Radio.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir, de faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur, de l'utopie d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face au tremblement. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.
Le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous. Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale TikTok ou l'emprise des réseaux sociaux. Alors pourquoi TikTok est devenu un outil d'embrigadement de toute une génération? Jusqu'où affecte-t-il le cerveau des plus jeunes? Et que recommande ce fameux rapport qui a été rendu cette semaine au président de la République sur l'exposition des plus jeunes aux écrans? Le numérique pour tous spécial emprise des réseaux sociaux, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un adepte des réseaux sociaux qui en décortique leurs mécanismes politiques. Il est également entrepreneur et enseignant à Sciences Po, Fabrice Eppelboin. Bonjour.
Bonjour.
Donc TikTok, on le rappelle, hein, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est la plateforme qui connaît une croissance exponentielle. Mais TikTok, aujourd'hui, est un petit peu mis à mal. Alors déjà, expliquez-nous, peut-être pour les générations qui ne sont pas sur TikTok, concrètement, ce réseau, qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il a de différent des autres?
Alors, pour les vieux que nous sommes, ce réseau, il a deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'il a vraiment imposé le format vidéo court, qui aujourd'hui est adopté par absolument tout le monde, mais c'est vraiment lui qui a imposé ce format-là, qui consiste à passer sa vie à regarder des formats très très courts de quelques secondes et à les enchaîner.
Plus rapide que Instagram, par exemple.
Beaucoup plus rapide qu'Instagram, même si Instagram essaye de rattraper. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de comment il fonctionne. Autant les autres, on a une vague idée de la façon dont l'algorithme qui assemble le flux de Twitter, de Facebook, d'Instagram fonctionne. Autant longtemps, TikTok c'est un mystère, mais tout le monde reconnaît que c'est redoutablement efficace. Donc il y a un secret de fabrication qu'on ignore tous, qui nous aurait tous fascinés s'il avait été américain, mais comme il est chinois, il nous fait un peu peur.
Alors c'est vrai que ça suscite beaucoup de fantasmes, ce réseau social. Expliquez-nous pourquoi culturellement, effectivement, ce réseau qui nous vient de Chine suscite...
Pour une raison très très simple, allez faire un tour sur YouTube et renseignez-vous sur les guerres de l'opium. Et vous allez comprendre que potentiellement, ça pourrait être le match retour qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et là, ça devient vraiment, vraiment flippant parce qu'on a toutes les raisons de croire que les réseaux sociaux, effectivement, peuvent avoir un impact absolument délétère sur les jeunes, sur les sociétés, sur la cohésion sociale, sur plein de choses, tout simplement parce qu'on l'a prouvé avec les réseaux sociaux américains. Là, c'est des Chinois et on peut raisonnablement estimer que leurs intentions sont un peu plus hostiles que les Américains.
Alors, récemment, la Commission européenne a craint effectivement l'utilisation de ce réseau par ses membres. Ça justifierait effectivement ce que vous évoquez, des principes d'infiltration ou d'observation de ce qui peut se dire d'un point de vue politique.
Alors, il y a une multitude de craintes qui se mélangent, aussi bien des craintes d'espionnage, qui sont quand même un peu fantaisistes et qui seraient relativement faciles à identifier, que des craintes d'ingérence, qui ne seraient pas plus étonnantes que celles qu'on a déjà observées à travers Facebook, dans l'affaire Cambridge Analytica, Twitter, dans l'affaire des Twitter Files. Donc finalement, pourquoi est-ce que les Chinois feraient différemment des Américains? Effectivement, la réponse évidente, c'est qu'ils vont faire rigoureusement la même chose et donc du coup que nous sommes réellement en danger parce que déjà que l'influence américaine n'est pas fantastique une fois qu'on a identifié et compris ce que c'est que les Twitter Files ou Cambridge Analytica. Alors l'influence chinoise, là encore je vous renvoie sur les guerres de l'opium. Renseignez-vous sur les guerres de l'opium, vous allez comprendre
la terreur. On va le faire Fabrice. Alors juste en 2024, je reviens toujours sur ce réseau, TikTok devait être interdit sur les téléphones également des politiques français. Mmh. Est-ce que la loi est rentrée en vigueur ou alors elle est restée lettre morte?
Alors c'est pas une loi, c'était une recommandation. Je pense qu'effectivement pour la plupart d'entre eux, ils se sont abstenus de TikTok parce que là encore, l'idée que Facebook ou Twitter puissent essayer de les influencer, relever pour eux de la théorie conspi, y compris quand ça a été prouvé. Par contre, les théories conspi, quand c'est les Chinois, c'est autorisé. Donc là, pour le coup, ils y ont vraiment cru.
Et là, si on compare le TikTok, on le sait tous, qu'on a en Occident et le TikTok chinois, oui. Cette différence, pour vous, c'est une orientation politique ou alors pour le bien des petits Chinois, on ne va pas leur pousser certaines choses
et, c'est la démonstration claire et nette qu'il y a une très nette différence entre la version chinoise de TikTok et la version occidentale et que dans la version chinoise, il y a très clairement des facteurs comme l'éducation, le patriotisme qui sont pris en compte et qui sont injectés dans la tête des petits Chinois alors que dans la version occidentale, clairement ça n'en fait pas partie et on peut alors soit avoir une version, on va dire complotiste et dire que le TikTok occidental est fait pour abrutir les petits occidentaux, soit avoir une version tout à fait capitaliste et se dire que le TikTok chinois est fait pour faire le maximum de fric, exactement comme Facebook, avec à peu près les mêmes effets pour être honnête.
Alors Fabrice, vous nous avez avoué en fait que vous étiez un fan de TikTok Lite. Alors c'est une nouvelle version qui est sortie récemment. Expliquez là aussi à nos auditeurs qui sont pas forcément fans de ce réseau, quelle est la différence avec l'ancien TikTok et pourquoi quelque part il apporte peut-être un peu plus de maturité dans la consommation de
réseaux sociaux. La différence est simple, TikTok Lite vous rémunère pour l'utilisation. C'est-à-dire que là, on est obligé de regarder en face un modèle économique qui est le même partout, hein. Mais plutôt que de garder tout l'argent qu'ils arrivent à faire pour capter votre attention, eh ben TikTok Lite vous reverse une partie de l'argent. Donc, il est absolument indéniable qu'on ait le produit. Alors que pour les autres réseaux sociaux, on peut encore détourner le regard et se masquer ça. Mais c'est la même chose, hein. Là, TikTok Lite pose les choses sur la table. Il est impossible de nier que dans cet assemblage entre utilisateur et application mobile, c'est l'utilisateur qui est le produit. C'est clair et net, il est payé pour utiliser le produit. Exactement comme, enfin presque comme un salarié, tout à fait comme un tâcheron de type Deliveroo ou Uber, qui sont des gens payés à la tâche, et ben là, on a des utilisateurs de TikTok qui sont payés à la tâche exactement comme un chauffeur Uber. Du coup, le rapport de dépendance est absolument indéniable, et comme c'est le même modèle économique que tous les autres réseaux sociaux, ça nous oblige à regarder l'ensemble en face.
Alors, vous qui êtes un fin observateur, on va dire, de la corrélation entre les mouvements politiques et les réseaux sociaux, est-ce que vous avez le sentiment que TikTok prend un peu la place que Facebook a eue lors du printemps arabe ou lors des gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est un réseau qui incite à l'insurrection?
Alors, inciter à la résurrection, peut-être pas, mais toujours est-il que Facebook et Meta, d'une façon générale, surcensurent tout ce qui peut être lié à la politique. On le voit en ce moment avec la Palestine, c'est extrêmement censuré sur Facebook. Il existe deux réseaux sociaux qui ne censurent pas massivement les sujets politiques, c'est Twitter et TikTok. Est-ce que c'est utilisé par une puissance étrangère pour faire de l'ingérence dans notre opinion ? Honnêtement, on n'a pas les preuves, on n'en sait rien. Est-ce que c'est utilisé comme plateforme politique par les jeunes ? Bien évidemment, vu que les autres ne sont pas utilisables en dehors de Twitter. Est-ce que ça sera utilisé demain pour, on va dire, un remake du printemps arabe en Occident ? Bah, on va voir. Mais objectivement, entre ça et Twitter, c'est les deux seuls réseaux qui sont réellement utilisables, avec évidemment Snapchat pour un aspect opérationnel des émeutes, mais en dehors de ça, pour la communication politique, c'est très clairement TikTok et Twitter qui auraient ma préférence.
Fabrice, ça ne vous a pas échappé. Un rapport a été rendu cette semaine au président de la République sur l'utilisation des écrans par les jeunes. Alors, il y a deux choses. Il y a les écrans, il y a le contenu et le contenant. Mmh. Quel regard vous portez sur ce rapport ?
Alors, on a un problème, là, je vais parler en tant qu'enseignant, on a un problème, le temps d'attention n'est absolument pas le même dans les jeunes générations que dans les générations précédentes. Moi, quand j'étais en cinquième, tout début du collège, j'avais des cours de maths qui duraient 2 heures. Aujourd'hui, c'est absolument impensable, un cours de maths qui dure 2 heures, y compris en terminale, ça ne peut pas exister. Le problème, c'est que l'appareil éducatif ne s'est jamais adapté, donc effectivement, il s'est juste effondré face à cette dichotomie entre la réalité des enseignants, du travail des enseignants et la réalité des élèves. Et ces deux mondes qui se sont séparés, c'est irrémédiable. Mais on pressent tous, on attend des études scientifiques rigoureuses, mais on pressent tous qu'effectivement les écrans, l'utilisation intensive des écrans a un rapport avec cet effondrement du temps d'attention disponible.
Qu'aimeriez-vous dire aux parents, Fabrice, qui aient des enfants qui utilisent TikTok ?
C'est très prétentieux de dire aux parents, parce qu'on est face à une population qui, pour une partie, se déleste lâchement de l'attention qu'ils devraient donner à leurs enfants en leur filant une PlayStation ou quelconque que ce soit. Mais on a aussi une très grande partie de la population qui n'a pas les moyens d'une babysitter, qui a 2 emplois pour arriver à survivre, qui a 5, 6, 7 enfants et pour qui les écrans ne sont pas... il n'y a pas d'alternative. Et il n'y a aucune autre solution que les écrans, si ce n'est la rue. Et donc là, on est dans des situations absolument désespérées où les écrans remplacent ce que dans ma génération était le Teralen, qui était un somnifère qu'on administrait aux gosses sans trop se poser de questions. On est dans cette logique d'impossibilité d'éduquer, faute de moyens, faute de temps, et de délégation aux écrans pour occuper le temps de cerveau disponible des enfants dès le plus jeune âge, de façon à ce que on puisse nous-mêmes avoir du temps, généralement pour travailler, souvent aussi pour soi-même s'adonner aux écrans. Et c'est vrai que c'est un problème de société globale. Les Chinois l'ont résolu en limitant le temps des écrans, de façon totalement arbitraire et très paternaliste. Nous, on n'est pas encore arrivé là, on n'y arrivera sans doute pas, mais on a ce problème de société massif qui est totalement lié à l'éducation, et on est en tant que société absolument incapable de prescrire quoi que ce soit en termes d'éducation, vu que notre système d'éducation nationale a fait faillite.
Merci beaucoup Fabrice Eppelboin, restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve dans quelques instants pour découvrir le niveau d'emprise que ces réseaux sociaux peuvent avoir sur nos cerveaux. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin.
Sud Radio, parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Sud Radio Antibes.
97.9.
Sud Radio.
À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette et à ceux qui préfèrent les faritas aux sandwichs. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous. Vanessa Pérez.
Continuez cette émission spéciale emprise des réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir un écrivain et philosophe. Il est l'auteur d'ouvrages académiques et littéraires, en particulier Un si beau bleu, paru aux éditions Bellefond, où le héros tente de retrouver à tout prix un contact avec la nature après l'enfermement numérique de la crise du Covid. Donc ça nous rappelle à tous quelque chose. Et il travaille par ailleurs depuis quelques années à des questions de régulation numérique avec un think tank qui s'appelle Hashtag le plus important. Et il est également l'auteur ou le co-auteur du livre Pour une nouvelle culture de l'attention, paru chez Odile Jacob. Voilà, c'est fait. Florent Florestier, bonjour, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui en plateau. Alors vous, Florent, vous aimez bien dire que TikTok, Facebook et Twitter, donc tous les réseaux dans le même sac, sont un peu comme des casinos, on n'en sort jamais gagnant. Pourquoi cette métaphore ?
Il y a beaucoup de points communs. Un casino, c'est un immense bâtiment avec un éclairage et une architecture un peu bizarre qui est faite pour que vous vous égariez et que vous perdiez un peu la notion du temps, pour que vous soyez dans une situation de torpeur, parce que plus vous y restez, plus vous avez des chances de dépenser de l'argent. Alors soit en rencontrant une machine à sous, les machines à sous, les jeux, elles sont là aussi pour vous maintenir, il y a des mécanismes, vous gagnez parfois, vous gagnez pas toujours, vous êtes curieux, mais il y a plein d'autres occasions de perdre votre argent dans un casino. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais dans les casinos de Las Vegas, j'ai pas joué, mais je me suis fait avoir en me faisant refiler un tour d'hélicoptère à 300€ au-dessus de Las Vegas. Les réseaux sociaux, ça fonctionne un petit peu pareil, sauf que vous ne rendez pas forcément compte que vous y entrez, vous ne rendez pas forcément compte que vous êtes dedans, et en plus, vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans un casino pour socialiser, pour rencontrer des amis, alors que les réseaux sociaux, de plus en plus. Donc c'est des casinos invisibles, presque nécessaires pour rencontrer les gens.
Alors Fabrice parlait effectivement de ces formats courts sur notamment TikTok. Est-ce que vous avez l'impression que ça conditionne un peu notre conception et notre rapport à l'autre ? Est-ce que ça nous fait nous impatienter ? Est-ce qu'on a envie de choses plus rapides, plus éphémères ? Est-ce qu'il y a un impact, vous qui avez écrit justement un livre, sur l'impact des réseaux sociaux sur notre cerveau ?
Mais complètement, et TikTok en particulier. Alors, c'est des circuits de récompense rapide, c'est-à-dire ça vous nourrit très rapidement, ça provoque un shot. Donc vous êtes là, vous attendez le nouveau shot, vous êtes un peu sous perfusion. Au bout du compte, vous avez l'habitude de que votre esprit soit nourri rapidement, donc vous savez rien faire d'autre et vous êtes coincé. Et en même temps, ça vous satisfait pas. En même temps, vous avez plus la patience et même la capacité de concentration pour nourrir un peu des pensées plus sophistiquées. Vous êtes coincé, heureux sur le moment, vous jubilez sur le moment et malheureux après coup parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément fait ce que vous aviez envie de faire.
Florian, moi ce qui me surprend toujours quand je suis sur un réseau social, c'est cette alternance d'images dramatiques, des guerres, des épidémies, et puis après des recettes de cuisine, peut-être des petits chatons, des choses comme ça. Est-ce que ça a un impact sur le cerveau des plus jeunes de tout mettre au même niveau ?
Oui, parce que ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est la manière dont il s'affiche. C'est que ça vous surprend, c'est que ça vous fait plaisir sur le moment, c'est que vous êtes content de voir une image qui s'affiche, et plus vous y restez, plus vous êtes content qu'il y en ait une autre qui arrive. Donc, au bout d'un moment, vous avez un rapport qui est un rapport ludique, un rapport un peu d'excitation, mais qui est plus forcément lié au sujet réel.
Mais tous ces réseaux sociaux, alors pour vous, ils ont conscience, effectivement, ils ont eu conscience de cette mécanique intellectuelle et de la façon dont fonctionne notre cerveau. Et en fait, leur modèle économique est fondé là-dessus. Il y a des neurologues qui travaillent justement à nous rendre dépendants.
Alors, le but de tous les réseaux sociaux, c'est que vous y restiez. Donc, c'est de vous capturer et que vous y restiez et que vous interagissiez avec eux. Parce que plus vous cliquez, plus vous faites des trucs, plus vous leur donnez des données, plus vous rendez le réseau actif, plus vous rendez le réseau actif sur les autres. Donc, évidemment, ils ont envie que vous y restiez. Ensuite, ils ont essayé un peu empiriquement, petit à petit. Ils voyaient qu'il y avait des techniques qui marchaient. Ils avaient des neurologues, mais tout n'était pas non plus complètement prémédité. C'était un peu un processus d'essai-erreur. Ils voyaient que certaines choses marchaient bien. Finalement, c'est plutôt une forme d'efficacité un peu inconsciente et irresponsable que de la préméditation pure et dure. Le but de ces réseaux, c'est de faire de l'argent avant tout. Ils essaient, ils regardent ce qui rapporte le plus et si c'est fondé scientifiquement, si ça peut être encore plus efficace, c'est mieux.
Alors là, on parle beaucoup de TikTok, effectivement, ouais. qui concentre, on va dire, tous ces mécanismes. Mais les autres réseaux comme Facebook et Twitter utilisent cette même mécanique de monétiser notre temps pour nous rendre dépendants.
C'est la mécanique qui est derrière tous les réseaux. C'est le principe, c'est que vous y restiez. pour pouvoir vendre derrière de la pub, pour pouvoir faire venir d'autres applis. C'est d'avoir une espèce de, d'être le point d'interface entre vous et le monde, entre votre attention et le monde. Alors, ce que TikTok a peut-être de particulier, c'est qu'il semble que plus que les autres, comme ils sont venus après, ils ont vraiment étudié leur stratégie. Eux, ils ont vraiment eu beaucoup plus recours que les autres, dès le départ, à de la connaissance neurologique. Ils l'ont vraiment ciblé.
On peut parler de manipulation pour vous derrière ces algorithmes. Fabrice parlait des influences, on va dire, politiques à travers les réseaux. Pour vous, effectivement, on peut définitivement embrigader les gens avec ces réseaux.
Alors, il y a des cas dans lesquels il y a des manipulations pures et simples. C'est quand vous avez ce qu'on appelle des interfaces trompeuses, vous cliquez en croyant faire quelque chose et ça fait autre chose. Vous avez des cas comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels le but, c'est de vous faire réagir. Il faut quand même voir que le but étant de vous faire réagir, ce qu'on vous montre, c'est ce qui va soit vous énerver, soit vous confirmer. Évidemment, il y a une forme de manipulation émotionnelle, parce que si on vous montre en permanence quelque chose qui vous énerve, évidemment, vous allez être de plus en plus énervé, de plus en plus confirmé dans votre énervement. Et quand ça devient un peu plus compliqué, quand derrière l'algorithme, il y a des stratégies dans lesquelles on dit « tel algorithme va montrer de préférence tel type de choses, va avoir un filtre par rapport à tel type d'autres choses », mais à force, comme vous arrêtez pas d'interagir avec le réseau, ça va vous ancrer. Ça va vous ancrer des idées, ça va vous ancrer des représentations dans le cerveau.
Oui, vous évoquez une possibilité peut-être de repenser les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec des nouvelles applications. Qu'en entendez-vous par là, très concrètement, pour que nous qui sommes des utilisateurs de Facebook ou d'Instagram, on puisse se projeter dans ce que vous imaginez comme nouveau réseau social?
Concrètement, pour le moment, pour être sur Facebook, vous n'avez que des applications et des outils Facebook. L'idée, pour donner du pouvoir aux utilisateurs, c'est que vous ayez beaucoup plus d'applications disponibles, que vous ayez un supermarché d'applications qui vous permettent vraiment d'adapter Facebook à ce que vous avez envie de voir. Alors, dans la manière dont fonctionne l'algorithme, dans la couleur, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont encore à imaginer même. Et d'autant qu'à partir du moment où on fait ça, on n'est plus dans la régulation négative, on est au contraire dans un développement industriel, et un développement industriel qui sans doute va changer le modèle. Parce que plus on aura une diversité dans les applications qui viendront sur Facebook, moins on sera dans la compétition des gros réseaux entre eux, plus on sera dans la diversité des fonctionnements, donc tous les effets négatifs en termes de viralité, en termes de polarisation, seront estompés. Donc c'est une sortie par le haut qui, en plus, devrait profiter aux réseaux eux-mêmes. Parce que les grands réseaux, ils ont un peu tous la même trajectoire. Au départ, ils cherchent leur modèle, ensuite ils ont un modèle très publicitaire. Ce modèle publicitaire finit par les plomber parce qu'il finit par dégrader considérablement l'expérience qu'on a.
Complètement.
Donc s'ils veulent durer, ils sont obligés de monter en qualité pour ça.
Le mot de la fin, Fabrice, parce qu'effectivement on s'interroge sur le réseau lui-même, mais le réseau ça fait partie d'un tout, c'est un outil dans notre quotidien, dans une civilisation, dans un mode de vie. Est-ce qu'au lieu de mettre des patchs, une fois encore j'insiste là-dessus, il n'y aurait pas une façon un petit peu plus large d'envisager cette problématique de communication entre nous autres humains?
La communication entre humains via les réseaux sociaux, au sens large, que ce soit Instagram, WhatsApp ou tout un tas d'autres choses, c'est quelque chose de totalement ancré et qui ne pourra pas sortir de sitôt. J'en veux pour preuve Elisabeth Borne qui avait insisté pour que les ministres n'utilisent pas WhatsApp dans leur communication, sans se rendre compte un instant que WhatsApp fait partie du quotidien pour tout et n'importe quoi, aussi bien nous que des ministres. Sans WhatsApp, ces gens seraient aussi décontenancés que nous si demain on devait se passer de messagerie instantanée pour gérer aussi bien notre vie familiale que notre vie professionnelle, que tout un tas de choses. Les ministres en sont tout autant incapables. Et ça montrait bien à quel point il est infiniment trop tard pour envisager des alternatives et qu'il va falloir au contraire faire avec. Alors d'un point de vue législatif, c'est compliqué, pour ne pas dire impossible. On a un exemple récemment au Parlement européen, un quart des parlementaires sont impliqués dans des affaires de corruption, détournement de fonds, donc il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment chez nous. Là-dessus, il va falloir attendre qu'on fasse un peu le ménage. Dans les médias, l'éducation populaire me semble la meilleure approche.
L'éducation. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin, Florent Forestier. Je vous remercie et je rappelle le titre de votre livre, La culture de l'attention, Paris, aux éditions Odile Jacob. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on n'a pas forcément d'autre choix que se retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale. Prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
TF1. Demain, La Recrue, votre nouvelle série. À tout juste 18 ans, Kevin est déjà un arnaqueur brillant. Lorsqu'il décide de raccrocher, c'est pour se voir proposer un job dans la police.
Je ne veux pas de ce gamin dans mon service.
Il a juste besoin d'un cadre.
Quatre murs et des barreaux, c'est très bien comme cadre.
La Recrue, demain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio.
have it just enough.